Europe 1.
Europe 1 matin week-end.
6h-9h.
Cédric Chasseur.
Bonjour Thomas.
Bonjour Cédric, bonjour à tous. Le brouillard ne se dissipe pas après les explosions au centre de l'Iran la nuit dernière. Une semaine après l'attaque sans précédent menée par Téhéran contre Israël, l'État hébreu garde le silence et l'Iran minimise.
C'est l'image de la nuit à New York. Un homme tente de s'immoler par le feu devant le tribunal où se déroule le procès de Donald Trump.
Et puis nous serons au rendez-vous. C'est la promesse d'Amélie Oudéa-Castéra à moins de 100 jours des Jeux Olympiques. Oui, on pourra se baigner dans la Seine, assure la ministre des Sports sur Europe 1.
Ils sont déjà là dans le studio. Dans la prochaine demi-heure, la pop culture, Mathieu Alterman. On parlera de quoi ?
Je vous parle des suites de films meilleures que les premiers volets.
Et vos questions de droit avec Roland Pérez, ai-je le droit aujourd'hui ?
Oui, ai-je le droit d'accéder à tout moment à mon solde de points sur mon permis ? C'est un petit cadeau que je m'offre.
Ce sera juste après le journal et le rappel de la météo avec Anthony Kasparek.
Et des nuages et des averses encore pour un large quart nord-est avec un vent de nord désagréable, mais partout ailleurs, plutôt du soleil, notamment au sud et à l'ouest, avec des températures toujours fraîches pour la saison entre 9 et 22 degrés.
Météo complète à la fin de ce journal.
Europe 1.
Après les explosions entendues dans le centre de l'Iran, la communauté internationale redoute l'escalade militaire au Moyen-Orient.
Téhéran n'accuse pas Israël directement, l'État hébreu reste mutique, mais pourrait être derrière l'attaque. Un nouveau palier a été franchi entre les deux ennemis régionaux. Retrouvons l'envoyé spécial Europe 1 à Tel Aviv ce matin, Wilfried de Villers, toujours aucune confirmation.
Oui, silence radio, que ce soit du côté du gouvernement israélien comme celui de l'armée, il apparaît désormais peu probable en fait qu'Israël revendique officiellement cette frappe dans le centre de l'Iran. C'est d'ailleurs un fonctionnement habituel pour l'État hébreu. Début avril, une frappe contre le consulat iranien à Damas n'a jamais été clairement revendiquée. C'est cette dernière pourtant qui a mené à cette escalade, celle que l'on connaît depuis une semaine entre Téhéran et Jérusalem. Concernant l'attaque de vendredi matin en Iran, il suffit de lire aussi ici la presse, de parler aux Israéliens pour comprendre que si ce n'est pas officiel, l'opinion publique considère largement que l'attaque de la nuit dernière en Iran est bien israélienne. Un regain de tension qui ouvre aussi une nouvelle page dans la diplomatie au Moyen-Orient parce que c'est la première fois que les deux pays mènent des attaques directes sur leur sol, plutôt habitués à une guerre de l'ombre qu'à un conflit plus ouvert. Les frappes minimes au-dessus d'Ispahan hier matin ont surtout permis à Israël de restaurer une forme de dissuasion sans prendre le risque d'une guerre régionale, d'autant que l'attaque intervient à quelques jours de Pessah, la Pâque juive fête la plus importante de l'année ici en Israël.
Merci Wilfried de Villers en Israël pour Europe 1. Emmanuel Macron fera tout ce qui est en son pouvoir pour prévenir la montée des violences entre le Liban et Israël. C'est ce que rapporte l'Élysée après un entretien à Paris entre le président français et le premier ministre libanais.
À New York, le premier procès au pénal d'un ancien président américain marqué par l'immolation d'un homme devant le tribunal.
Des témoins ont vu l'homme brandir des brochures, les jeter en l'air avant de se mettre le feu. Il a survécu, mais gravement blessé. Il est à l'hôpital. Aviva Fried, vous êtes la correspondante Europe 1 à New York. Pas de motivation claire, mais des écrits complotistes ont été retrouvés.
Oui, ce qu'on sait pour l'instant, c'est que l'homme qui s'est immolé par le feu s'appelle Max Azzarello. Il a 37 ans et vient de Floride. Les témoins de la scène l'ont vu s'asperger d'essence. Il a ensuite crié aux passants de s'enfuir avant de se mettre le feu avec un briquet. Juste auparavant, il a lancé une poignée de tracts sur lesquels on pouvait lire pêle-mêle les noms de George Bush et d'Al Gore, de l'Université de New York, de la mafia. L'homme aurait aussi brandi des pancartes accusant Donald Trump et Joe Biden de fomenter un coup d'État, un méli-mélo que résume Tariq Shepard, l'un des responsables de la police de New York.
Nous ne pensons pas qu'il visait une personne ou un groupe en particulier. Pour l'instant, nous le considérons comme un complotiste, et c'est notre piste. Mais l'enquête va continuer.
Sur place, les démineurs ont passé le parc au crible pour s'assurer qu'aucune bombe n'avait été cachée. Et la question à laquelle les services de sécurité vont devoir répondre, c'est comment un tel événement a pu se produire à quelques centaines de mètres seulement du procès sous haute surveillance d'un ancien président des États-Unis.
L'Ukraine attend toujours une aide militaire de 60 milliards de dollars promise par les États-Unis. Verdict aujourd'hui, vote au Congrès américain. L'Ukraine ne peut plus attendre, prévient Volodymyr Zelensky devant l'OTAN. Et cette nuit, des avions de chasse ont été repérés dans le ciel de Taïwan. 21 avions militaires chinois détectée autour de l'île revendiquée par Pékin, selon le ministère taïwanais de la Défense.
Un retour en France, une foule nombreuse a rendu hommage hier à la mémoire de Philippe Kopmann.
Ce jeune de 22 ans lynché, battu à mort à Grande-Synthe près de Dunkerque. Deux jeunes de 14 et 15 ans ont passé leur première nuit en prison, mis en examen pour assassinat. L'un a reconnu avoir tendu un piège à la victime. Très forte émotion également à Romans-sur-Isère dans la Drôme. Une marche blanche a rendu hommage à Zakaria, cet adolescent de 15 ans tué dans le quartier de la Monnaie alors qu'il s'interposait dans une bagarre sur place. Noémie Loisel pour Europe 1.
Zakaria, nos pensées t'accompagnent. En tête de cortège, la famille de l'adolescent, la mère et le grand frère de Zakaria tiennent une banderole et se recueillent plusieurs minutes devant leur appartement, puis là où le jeune homme a perdu la vie. Comme beaucoup présents ici, le cousin de Zakaria est partagé entre émotion et incompréhension.
Il est mort, mais injustement. Il n'a pas vécu, il n'a pas fait sa vie. Il n'a rien à voir dans l'histoire, il ne pouvait pas mourir comme ça. C'est mon petit cousin, il était toujours drôle.
Dans la foule, des proches mais aussi des habitants du quartier participent à la marche, habillés d'un t-shirt blanc avec la photo de Zakaria. Pour Philippe, l'éducateur du quartier connu de tous, il faut que ces violences s'arrêtent.
C'est hélas la troisième fois que je prends la parole pour un de nos jeunes qui nous quitte avec effroi et beaucoup de tristesse. Ces marches envers nos jeunes du quartier de la Monnaie nous remuent toujours et nous rappellent à de sombres souvenirs. Nous sommes tous choqués par cette folie meurtrière, démesurée et insensée.
Près de 500 personnes se sont réunies pour soutenir la famille, mais beaucoup regrettent aujourd'hui l'absence de la mère de Romans-sur-Isère. Marie-Hélène Touraval avait été menacée de mort après ses prises de parole il y a quelques mois sur ce même quartier de la Monnaie. Romans-sur-Isère, Noémie Loisel, Europe 1.
Malgré le plan Vigipirate au maximum en France, un franco-iranien de 61 ans est parvenu à s'introduire dans le consulat iranien et a menacé d'allumer sa ceinture d'explosifs. Les autorités l'ont finalement arrêté et découvert qu'il s'agissait de fausses armes.
Il est 7h06 sur Europe 1. Une commune mobilisée en Vendée pour empêcher la fermeture d'une classe.
C'est une décision qui ne passe pas à l'Hermenot. Il y a 4 ans, le rectorat avait réclamé l'ouverture d'une 5e classe dans la commune de 2200 habitants avant de faire marche arrière cette année, faute d'effectifs. Sauf que, Charles Guyard, la mairie a déjà engagé des travaux très coûteux.
On ne s'est même pas posé la question quand on nous a dit qu'il faut ouvrir la 5e classe, il faut qu'on le fasse.
Été 2020, 113 élèves s'apprêtent à faire leur rentrée à l'école Jules Verne qui ne compte que 4 classes. Le rectorat demande alors au maire Yves Germain d'en ouvrir une 5e.
Et donc on a retroussé les manches.
Et sorti le chéquier aussi pour déplacer la salle de motricité, construire un nouveau préau, coût de l'opération près de 240 000 euros. En février dernier, tout est enfin terminé et là, c'est la douche froide.
Nous apprenions que la 5e classe était fermée, avant même d'être ouverte.
Il faut dire que depuis 2020, les effectifs ont évolué. Entre les départs au collège et les arrivées, le nombre d'inscrits pour la prochaine rentrée est aujourd'hui tombé à 96 élèves. Sauf que la barre pour maintenir ouverte cette 5e classe est fixée à 100.
Pour 4 élèves, je trouve ça un peu dommage d'avoir mis cette somme-là et de ne pas nous laisser une chance pour ouvrir au moins pendant un an et voir, parce que nous avons quand même un lotissement en cours et j'espère que nous aurons des jeunes couples avec des enfants.
En attendant, le rectorat, lui, reste inflexible. Jérôme Bobinet, adjoint en charge de ce dossier.
Pour l'instant, ils ne donnent pas suite à nos demandes de rendez-vous. Voilà, eux, ils restent sur un aspect mathématique.
Et pour mettre la pression, les parents d'élèves ont lancé une pétition qui a déjà recueilli plus de 8000 signatures.
Bon courage et patience si vous êtes sur les routes aujourd'hui. Les vacances de Pâques se terminent pour la zone C, elles commencent pour la zone B. C'est orange dans les deux sens en Auvergne-Rhône-Alpes. Trafic orange également dans le sens des retours en région parisienne. Ce sera particulièrement difficile pour les retours de Normandie. La 13 est totalement fermée dans les deux sens entre Paris et Vaucresson à cause d'une large fissure dans la chaussée.
La promesse tiendra-t-elle cet été? Pourrons-nous nous baigner dans la Seine?
Ce devrait être l'un des moments inoubliables des Jeux Olympiques. 3 épreuves de nage dans le fleuve de la capitale. D'importants et coûteux travaux ont été réalisés à moins de 100 jours de la cérémonie d'ouverture. La ministre des Sports balaye les doutes. Amélie Oudéa-Castéra assure qu'on parviendra à nettoyer la Seine d'ici là.
On sera au rendez-vous. On a encore un petit peu de travail parce qu'on doit notamment finaliser la construction de toutes ces infrastructures de collecte des eaux pluviales qui vont permettre de bien canaliser les choses, de faire en sorte que ça ne se mélange pas avec les autres types d'eau, que ça ne soit pas une source de pollution et de faire en sorte de réussir ce pari d'éliminer 75% des pollutions dans la Seine. On aura au global 700 millions d'euros de l'État investis dans ce chantier qui est un moment d'histoire. Parce que derrière, en héritage, ça va bénéficier aux Parisiens, aux Franciliens, à tous les Français.
La ministre des Sports sur Europe 1 ce soir avec Jacques Vendroux. de 20h à 21h. Et puis le Grand Prix de Chine, et c'est le triple champion du monde qui, au volant de sa Red Bull, a remporté la course sprint Max Verstappen au circuit de Shanghai. Il était pourtant parti en quatrième position. Le Néerlandais n'a mis que 9 tours pour remonter ses concurrents et prendre la tête de la course pour ne plus la lâcher jusqu'au drapeau d'Amiens, où il s'est imposé avec plus de 10 secondes d'avance devant Lewis Hamilton et Sergio Perez.
Il sera encore le grand favori de la course demain. Merci Thomas Schnell, vous revenez dans quelques minutes pour le journal permanent.